Dans quelle mesure faut-il prendre en compte les différentes évolutions scientifiques, en théorie littéraire, mais aussi dans les, dans d'autres disciplines, pour mettre à jour la méthodologie, le cadre méthodologique et épistémologique de la narratologie? Quels critères et quelle conceptualisation de la narratologie doit-elle adopter pour aborder des objets autres que les objets de prédilection de la narratologie traditionnelle, le récit, la fiction littéraire? Peut-on toujours diviser le récit en niveau, en un niveau de narration et un niveau d'événement narré? Comment s'articulent les questions de la de narratologie structurale et celle de la narratologie thématique. Alors, si aucune des vingtaines d'interventions faites depuis le début du séminaire n'a cherché à répondre à ces questions de manière explicite, interventions portant sur des sujets aussi divers que la narratologie féministe, la narratologie postcoloniale, la narratologie intertextuelle, l'énonciativisme et le point de vue, narration et simulation mentale, narrativité et musique, les fictions transgressives, etc. On ne peut manquer de constater que les paramètres de réflexion théorique sur le récit ont subi des transformations décisives, que les méthodes, les objets et les objectifs de la narratologie se sont multipliés sans toutefois briser les liens avec la narratologie des origines, des années 60. D'où notre décision d'intituler le séminaire dès cette année Narratologie contemporaine au pluriel. En 1983, Gérard Genette a fait état de deux narratologies qui, à l'époque, s'opposaient. Une, et je cite, une narratologie thématique au sens large, analyse de l'histoire ou des contenus narratifs, dans le sillage des analyses menées par Propp, et l'autre formelle ou plutôt modale, analyse du récit comme mode de représentation des histoires. Bref, le comment de l'histoire du récit par opposition au quoi du récit. Alors, quelles que soient les divergences de ces deux orientations, conceptuelles, méthodologiques ou autres, un bon nombre de chercheurs, pour diverses raisons, selon différentes perspectives et avec plus ou moins de succès, se sont attachés à relier les deux aspects du récit. Ce qu'on raconte n'est pas sans incidence pour comment on le raconte, pas plus que comment et par quels moyens on raconte n'est pas dénué de conséquences pour ce qu'on raconte. Alors, ceci étant, nous avons décidé cette année de mettre l'accent sur la narratologie thématique, définie de manière générale et informelle comme l'ensemble des théories et des méthodes permettant d'appréhender les contenus narratifs sous tel ou tel angle analytique. Cette narratologie thématique se subdivise, à nos yeux, selon deux types de problématiques, mais qui ne sont pas sans rapport, les unes avec les autres, voire et qui posent même des relations complémentaires les unes avec les autres. Et écoutant l'intervention de Francis, il me semble que bon, ce que je vais dire par la suite, qu'il y a des complémentarités fort intéressantes ou de toute façon potentielles. Alors, d'une part, une narratologie thématique qui met l'accent sur l'imaginaire et dont le terrain privilégié serait, comme nous venons de l'entendre, la transfiction, récit situé à la charnière de la littérature générale, plutôt réaliste, et les littératures de l'imaginaire, comprenant le merveilleux, le fantastique et la science-fiction. Alors, d'autre part, une narratologie thématique plus formalisée, évoluant dans un contexte transdisciplinaire, et qui cherche à intégrer à l'étude du narratif tout en les adaptant de manière appropriée les concepts et les outils de la logique des mondes possibles et ceux des sciences cognitives. Et c'est en fonction de ces deux orientations, l'imaginaire d'un côté et les mondes possibles et le cognitivisme de l'autre, toutes deux révélatrices de certains aspects de l'état actuel des recherches dans le domaine, que nous avons organisé les débats de cette année sans insister sur la nécessité de chacun des intervenants de s'interroger de manière explicite sur ces questions ou d'adopter une position quelconque vis-à-vis des problématiques associées à ces différentes orientations. Alors, je ne chercherai pas à dessiner un panorama des différentes théories narratives s'étant inspirées des thèses de la logique des mondes possibles ou celles développées à partir des sciences cognitives. Il n'est pas non plus mon objectif d'exposer de manière in extenso les travaux de tel ou tel chercheur travaillant dans ce domaine. Mon objectif sera plutôt d'identifier quelques problématiques qui ont incité les narratologues à chercher du côté de ces théories afin de combler certaines lacunes dans les recherches narratives, d'approfondir différents aspects du récit insuffisamment explorés, redéfinir les paramètres et la conception du phénomène narratif, etc. Ces évolutions n'intéressent pas les seuls chercheurs s'étant spécialisés dans une de ces deux approches, techniques et complexes, mais suscite bien au-delà du cercle des adeptes des réflexions et des interrogations concernant le phénomène narratif dans ses différentes manifestations littéraires ou autres et le statut et son statut d'artefact culturel. Alors, afin d'avoir une perspective équilibrée des choses, il me semble fort utile de garder à l'esprit le fait que si la logique des mondes possibles et les sciences cognitives commencent à exercer une influence sur la narratologie vers le milieu des années 70, certaines orientations de la narratologie structuraliste pointaient déjà vers des évolutions qui devrait prendre de l'allure au cours des décennies suivantes. À ce titre, on notera avec Hans Kernöning, qui est intervenu au printemps de 2004, pour dresser, qui est venu au séminaire en 2004, pour dresser un inventaire et une typologie des différentes narratologies qui existent aujourd'hui, que la narratologie structuraliste se sous-divisait déjà en quatre orientations prémonitrices pour les décennies suivantes. Selon Nöning, il y a une orientation qui favorisait les questions sémantiques, se concrétisant par la suite par des théories de sémantique narrative. Une orientation qui cherchait à formaliser l'histoire, produisant des théories de la syntaxe narrative. Troisièmement, une narratologie discursive qui étudiait les formes et les fonctions de la médiation narrative. Et finalement, une orientation qui mettait l'accent sur les questions rhétoriques et pragmatiques. Alors, malgré le caractère plutôt approximatif de cette division du champ narratologique, qui ne rend pas compte de certaines positions intermédiaires, ni de la nécessaire interaction entre les différents aspects du récit, cette typologie possède le mérite de délimiter quatre ensembles de considérations qui, selon le poids relatif que l'on accorde à l'une ou à l'autre des tendances est déterminant pour l'analyse et la conceptualisation des récits. En ce qui concerne les apports des théories de monde possible et des sciences cognitives à l'étude des récits, il semble bien que l'accent tombe sur les orientations sémantiques et syntaxiques, même si les questions de rhétorique et de pragmatique ne sont pas écartées et que les contraintes du discours narratif, le signifiant du récit, restent incontournables. S'il y a une rupture entre la narratologie structuraliste et les différentes pratiques narratologiques qui y ont succédé, il reste néanmoins que cette narratologie dite classique, par certains, a préparé le terrain pour les évolutions plus récentes, traçant déjà certains domaines d'interrogation, mais se heurtant également à des difficultés qui devaient être débattues par la suite. Alors, je vais maintenant présenter et commenter quelques-uns des thèmes des problématiques, d'abord de la narratologie s'inspirant de la sémantique des mondes possibles et ensuite ceux de la narratologie cognitive, en m'appuyant sur les travaux de quelques-uns des spécialistes des deux domaines. Mon but n'est pas de mettre en place des programmes ou des thèmes de recherche bien définis, mais plutôt d'identifier quelques sujets de réflexion qui méritent d'être pris en considération compte tenu de l'état actuel de la recherche narrative. Certaines de ces questions seront peut-être débattues pendant les séances du séminaire à venir, et d'autres serviront peut-être à lancer des projets de lecture et de recherche. Concernant la bibliographie sommaire que j'ai distribuée, qui est vraiment très sommaire, il s'agit en fait de quelques sources à partir desquelles il serait possible de se documenter de manière plus complète. Alors, il est bien connu que la bête noire du structuralisme, c'est le référent. Selon Gramas et Cortès, pour donner un exemple précis, on entend par référent les objets du monde réel qui désignent les objets, voilà, les référents, on entend par référent les objets du monde réel que désignent les mots des langues naturelles, mais aussi les qualités, les actions, les événements réels. Le référent peut englober également l'imaginaire. Pour Gramas et Cortès, seul le contexte linguistique, verbal ou verbalisable, est le lieu de la référence du texte. Déictique, anaphorique, anaphore, cataphore, etc. D'où les différentes versions de l'illusion référentielle, effet de sens, l'effet de réel, l'autoréférence, etc., évoquées par les structuralistes, mais aussi par les post-structuralistes, les déconstructionnistes et d'autres théoriciens du discours travaillant dans ce contexte jusqu'à nos jours. Mais comme l'a montré Thomas Pavel le milieu des années 80, dans ses livres « Le mirage linguistique » et « Univers de la fiction », l'antiréférentialisme structuraliste s'accompagne d'un silence quasi total sur la sémantique logique moderne. Brentano, Frege, Russell, Meinong, l'école de Vienne, Popper, Carnap, etc., et dans la tradition française, Poincaré et Braunschweig. Pour Pavel, ce moratoire sur le référent traduit un fondamentalisme sémantique qui empêche toute réflexion sur la fiction, donc à une position ségrégationniste des relations entre fiction et réalité, qui considère le contenu des textes fictionnels comme le produit de l'imagination pure, dénué de toute valeur de vérité, Pavel oppose une position intégrationniste plus ouverte que la perspective ségrégationniste et qui ne fait pas de distinction ontologique nette entre les descriptions fictionnelles et les descriptions non fictionnelles du monde actuel. Pavel adopte une position intégrationniste plutôt modérée, fondée sur les travaux de Kripke, le fondateur de la sémantique des mondes possibles. Selon Kripke, les éléments constitutifs d'une structure modale, sont liés entre eux par telle ou telle relation, permettant, selon des règles précises, certaines alternatives possibles. D'autre part, sous certaines conditions, une relation d'accessibilité entre deux mondes distincts est possible. Par exemple, si une entité Y est commune aux deux mondes A et B. Alors, au cœur de la conception des mondes fictionnels, selon Pavel, est la notion de structures qui sont ontologiquement duelles. Donc, dans un univers primaire, des enfants jouent dans la boue. Mais dans l'univers secondaire, on imagine des chefs et des gâteaux. Ces structures deviennent saillantes, c'est-à-dire existentiellement créatrices, dès lors qu'il manque entre les deux univers une relation d'isomorphisme. C'est le cas des domaines du sacré et du profane, par exemple, mais aussi, pour prendre un exemple littéraire, de Don Quichotte s'attaquant à des moulins à vent qui ne sont pas dans le monde actuel créé. Dans le monde de Cervantes, des chevaliers. Alors, maintenant, Marie-Laure Ryan, qui va intervenir au mois de mai dans notre séminaire, et dans le séminaire de Françoise Lavocat également, Marie-Laure Ryan parle elle aussi de la structure duelle de récit, de fiction, mais en soulignant, avec Kendall Walton, le rôle du faire-semblant, le make-believe. Tout en sachant que le pâté de bois, devant lui, n'est pas un gâteau, l'enfant fait comme si c'est un gâteau. De manière analogue, le lecteur considère l'univers textuel comme un monde actuel, c'est-à-dire un système de réalité, pas forcément celui de la du monde réel, entre guillemets, qui forme un monde central autour duquel des mondes possibles alternatifs constituent des satellites. Ryan, qui fait un lien plus étroit entre la théorie des mondes possibles et la théorie narrative que Pavel, fait appel à un recentrage fictionnel afin de créer une typologie de discours, du discours narratif. Donc, elle adopte dans un premier temps la théorie indexicale de David Lewis, selon laquelle tout monde possible est réel, entre guillemets, dans la mesure où il existe par rapport à celui qui s'exprime à l'intérieur de ce monde. Le monde actuel est donc bien distinct du monde possible alternatif. Dans ce système de recentrage fictionnel, Ryan introduit également le principe avancé par le logicien Nicholas Reschel que les mondes possibles sont des constructions mentales et par conséquent que les faits des mondes possibles non actualisés ont une existence relative par rapport au monde actuel, comme dans les rêves, les énoncés contrefactuels, les souhaits, les croyances, etc. Dans une œuvre de fiction, les différentes possibilités, c'est-à-dire les mondes possibles alternatifs, sont présentés à partir d'un monde actuel narratorial qui jouit d'un statut absolu par rapport à ces mondes possibles alternatifs. Donc, l'essentiel, c'est le recentrage du monde actuel narratif et ce système de satellites, de monde possible alternatif qui circule autour de ce monde actuel créé à l'intérieur d'un monde textuel. Alors, pour compléter sa théorie du récit fondée sur la sémantique des mondes possibles, Ryan introduit le principe de relation d'accessibilité entre mondes possibles, emprunté à Kripke, ainsi que, pour rendre compte de la phénoménologie de la lecture, le principe d'écart minimal, minimal departure, qui permet au lecteur de reconstruire l'univers textuel de façon conforme à sa propre conception du monde actuel. Ou, pour employer une expression dans un autre contexte, avancée par Jonathan Culler, cet écart minimal est une sorte de pour naturaliser le monde de l'univers fictionnel, pour rendre pour imposer sur l'inconnu le connu. C'est ça la naturalisation. Alors, je terminerai mon commentaire sur Ryan en résumant les 5 critères du récit de fiction formulés en termes de théorie des mondes possibles. Bon, il y a 5 critères. Premièrement, il n'y a qu'un monde, un seul monde actuel. L'auteur du texte est situé à l'intérieur de ce monde actuel. Troisièmement, tout texte projette un univers au centre duquel se trouve l'univers textuel. Grosso modo, c'est le texte narratif des structuralistes ou le sujet des formalistes russes. Quatrièmement, l'univers textuel fournit une image plus ou moins précise de l'univers référentiel, censé être indépendant de l'univers de l'univers textuel. Grosso modo, c'est l'histoire ou la diégèse des structuralistes ou la fable des formalistes. Et cinquièmement, tout texte est doté d'un locuteur implicite situé à l'intérieur de l'univers référentiel. Alors, le temps limité ne me permet pas de commenter la façon dont le schéma se positionne par rapport au modèle narratif préexistant. Il serait intéressant, par exemple, de confronter le modèle proposé par Ryan avec la typologie tabulaire de Genette, fondée sur les croisements de niveaux extra-diégétiques et intra-diégétiques, et les narrateurs hétéro-diégétiques, homo-diégétiques, ou bien avec le cercle typologique de situation narrative de Stanzel, situation narrative narratoriale, situation narrative figurale, situation narrative à la première personne. Et je ne peux que mentionner un de ses derniers livres, Narrative as Virtual Reality, où Ryan cherche à réconcilier la poétique de l'immersion et la poétique de l'interactivité, telle qu'on trouve l'interactivité dans les médias électroniques. Quant aux dernières réflexions de Ryan, nous aurons l'occasion de nous familiariser avec tout cela au mois de mai, quand il interviendra dans les 2 séminaires. On voit donc que la revalorisation de la question de la référence dans le contexte de la sémantique des mondes possibles, conduit à une interrogation sur la fictionnalité et l'ontologie du récit, qui est restée largement marginalisée par la narratologie structuraliste, mais aussi à une réflexion sur la nature et la distribution des catégories narratives. Parmi les autres conséquences de cette ligne de recherche, figurent des propositions concernant la typologie générique du récit. Doreen Maître, par exemple, distingue quatre types de récits. Les récits qui restent relativement fidèles aux événements historiques, exemple le non-fiction novel. Deuxièmement, récits réalistes présentant des états d'affaires imaginaires qui pourraient être actuels. Troisièmement, récits qui hésitent entre des états d'affaires qui sont potentiellement actuels et des états d'affaires qui ne pourraient jamais être actualisés, le fantastique selon Todorov. Et quatrièmement, des récits présentant des états d'affaires qui ne pourraient jamais être actualisés, le merveilleux selon Todorov. Donc voici dans une étude des mondes inspirés des mondes logiques, des mondes possibles qui crée une typologie de récit qui a un rapport assez frappant au genre et sous-genre discuté par Francis. Alors, je ne peux que mentionner très brièvement les travaux de Umberto Eco pour qui le récit est ce qu'il appelle une machine pour la production des mondes possibles, ou ceux de Richard de Saint-Gelais sur la transfictionnalité, mettant l'accent sur les relations d'accessibilité entre mondes fictionnels. Je ne peux non plus discuter dans le détail les critiques faites aux théories référentielles de la fiction faites par Jean-Marie Schaeffer, donc pourquoi la fiction, pour qui l'identification entre le monde possible, et univers fictionnel est douteux, la fictionnalité résidant, selon lui, non pas dans la sémantique, mais dans une pragmatique de la fantaisie partagée. Selon lui, les sémanticiens du récit adoptent souvent une condition pragmatique. Alors, mon objectif aujourd'hui n'est pas d'arbitrer entre les différentes positions de la théorie narrative ou de répondre aux objections. Donc, avant de passer au volet cognitiviste de mon exposé, quelques brèves observations concernant les travaux de Lubomir Doleschol, qui viendra également au mois de mai. Doleschol, pionnier dans le domaine, est sans doute celui qui a tiré le plus de conséquences de cette approche pour la théorie narrative. Alors, plus que les autres sémanticiens du récit, Doleschol met l'accent sur ce qui est pour lui deux aspects essentiels de la théorie des mondes possibles. Le sens et la référence, distinction qui remonte à Frege, mais que Doleschol, suivant Carnap et les recherches en logique des mondes possibles, l'intention avec un S ici pour les logiciens, pas avec un T, intention et extension. Alors, selon Doleschol, le concept de base de la, et c'est important, le concept de base de la narratologie n'est pas l'histoire, l'enchaînement des événements, mais le monde narratif, narrative world, habité par des objets, des forces et des personnes. Sémiotiquement, ces objets, forces et personnes sont réunis sous la forme de motifs, dont la structure correspond à celle des propositions logiques et qui se prête à la représentation sémantique. Donc, la paraphrase ou le résumé d'un motif ou de toute une histoire permet d'identifier la structure extensionnelle de ce motif ou de cette histoire. Au-delà de cette interprétation sémantique, exprimée dans une langue naturelle, il est possible de construire un métalangage extensionnel. Alors, l'extension est donc cet aspect de la signification, narrative qui dirige le signe vers le monde, vers ce qui est indiqué ou dénoté par l'expression, c'est-à-dire pour le récit, le monde narratif ou le monde narratif possible. Alors, le troisième niveau du motif pour Dolezal, après ceux de sa forme propositionnelle et de sa structure extensionnelle, est celui de la texture. Par texture, Dolezal entend la forme de l'expression, le texte narratif, c'est-à-dire le texte narratif, et c'est ici que la structure intentionnelle, encore une fois avec S, la structure intentionnelle du récit est déterminée. Figure rhétorique, prosodie, les différentes formes de représentation du discours, etc. Contrairement à l'extension, l'intention ou le sens du texte résiste à la paraphrase et à la théorisation. Pour ne donner qu'un exemple, il n'est pas indifférent que si dans le procès de Kafka, certains personnages sont désignés par leur prénom ou leur nom de famille, d'autres par leur fonction professionnelle, le juge ou le directeur de banque, et le protagoniste par l'appellation ambiguë Joseph K. Si, en théorie sémantique, il faut distinguer les extensions et les intentions, elles restent complémentaires dans la production de la signification littéraire. Les extensions sont accessibles par le biais des intentions, tandis que les intentions sont fixées par les extensions. Alors, ce système suscite évidemment de nombreuses observations et je me contenterai ici simplement d'indiquer que là où la narratologie structuraliste postule le niveau de l'histoire et le niveau du discours, et le formalisme russe, la fable et le sujet, la théorie narrative de Dolezal repose sur des transformations sémantiques réalisées entre l'extension et l'intention du récit. Parmi les facteurs déterminants pour les transformations sémantiques des mondes narratifs sont les modalités narratives, déjà explorées par Grimas, par Tsvetan Todorov et aussi par Claude Brunot, mais fondées par Dolezal sur les quatre catégories de la logique modale développée par von Richt et Hintikka. Donc, l'opérateur analytique, qui comprend le possible, l'impossible et le nécessaire, impose sur le monde narratif des conditions de causalité, de paramètres du temps et d'espace, et les capacités d'action des personnages. La littérature réaliste respecte cette modalité analytique, tandis que la violation de ces conditions produit le surnaturel. Donc on est encore une fois dans une typologie du récit qui s'inspire de la logique des mondes possibles. Alors les opérateurs, deuxièmement, les opérateurs déontiques comprenant le permis, l'interdit et l'obligatoire dominent dans les mondes fictionnels normatifs, où, par exemple, les prescriptions sociales entrent en jeu. Troisièmement, les opérateurs axiologiques du bien, du mal et de l'indifférent transforment les entités, les actions, etc., du monde fictionnel en valeurs positives ou négatives, et sur le plan social ou historique, mais aussi au niveau de la subjectivité. Enfin, les opérateurs épistémiques, comprenant la connaissance, l'ignorance et la croyance, sont présents dans le récit de quête de l'apprentissage, mais aussi dans le récit de tromperie. Alors, quant aux conséquences de la théorie de Dolezal pour l'étude des récits, les avancées, les lacunes, les questions soulevées, mais restées en suspens, je ne tenterai pas de les évaluer ici, mais une fois de plus, je laisserai à ceux et à celles qui souhaite poursuivre les solutions, qui souhaite poursuivre des recherches sur ces questions. Alors, je passe maintenant aux approches cognitives de la théorie narrative. Oui, ok. Ah oui, bon, j'arrive. D'accord. Alors, sur le plan disciplinaire, ces approches sont bien plus diverses que celles de la théorie narrative fondée sur la logique des mondes possibles. Les sciences cognitives elles-mêmes représentent une confédération de psychologie, de linguistique, d'intelligence artificielle, analyse du discours, philosophie, etc. D'autre part, il est important de savoir que les sciences cognitives ont connu deux phases dans leur évolution. Alors, une première phase, aux années 50 et 60, était proche de la philosophie analytique anglo-saxonne, avant Wittgenstein, Austin, Searle, et représente une réaction contre le behaviorisme, considérant le processus cognitif en termes de traitement informatique des données. La deuxième phase, plus fructueuse pour la théorie narrative, insiste sur le caractère discursif des processus cognitifs et leur enracinement dans le corps humain. Sur le plan philosophique, cette phase dont les origines remontent à la psychologie des formes, au pragmatisme de William James et à la phénoménologie de Merleau-Ponty, adopte trois position. Bon, l'esprit ou l'intelligence est par sa nature incarné. Deuxièmement, la pensée est en grande partie non consciente, pas inconsciente, mais non consciente. Et troisièmement, les concepts sont en grande partie métaphorique. Alors, contre le chomskyisme, d'ailleurs, la linguistique cognitive soutient que le langage n'est pas une faculté cognitive autonome, que la grammaire est une conceptualisation et que la connaissance du langage est le fruit de l'utilisation du langage. Les sciences cognitives s'intéressent à plusieurs phénomènes que je ne peux pas aborder ici, qui ne sont pas tout à fait pertinentes ici, mais cela, par exemple, les espaces mentaux, la notion de prototype, la fusion conceptuelle, conceptual blending, et les métaphores conceptuelles. Je laisse ça de côté parce que ce n'est pas tout à fait au cœur des problèmes de la narratologie cognitive. Alors, la narratologie cognitive est une appellation qui date d'un article de 1997 par Manfred Jahn qui rapproche les schèmes cognitifs des trois situations narratives de Stansel. Et d'autres sources de la narratologie conceptuelle sont la narratologie structuraliste et l'analyse des récits dans la vie quotidienne initiée par Labov et Waletsky dans son article classique de 1967. Alors, si les narratologues s'inspirant de la théorie la théorie des mondes possibles s'interroge presque exclusivement sur les récits de fiction. Un article de Doleschall dans l'ouvrage collectif de David Herman étant une exception. Les théories narratives cognitivistes s'intéressent à une gamme de récits plus large. Et en fait, ce même David Herman, comme d'ailleurs Mark Turner, dans un autre contexte, considère que la théorie narrative représente une source essentielle des sciences cognitives. Si les deux approches du récit semblent dissimilaires, une lecture de la recherche dans ces deux approches que je discute aujourd'hui, on trouve que pour beaucoup de spécialistes, ces deux approches sont en fait complémentaires. Selon Uri Margolin, par exemple, la narratologie des mondes possibles souligne l'écart entre le fictionnel et l'actuel, tandis que l'approche cognitive, en mettant l'accent sur les constructions mentales, favorise des démarches plus intégratives. Alors, j'exposerai brièvement les travaux de trois narratologues. Je pense que je vais arriver. Bon, 19h. Donc, j'exposerai brièvement les travaux de trois narratologues qui ont adopté les thèses empruntées aux sciences cognitives. Mon premier exemple est de David Herman. Pour lui, le contenu narratif n'est pas une histoire, c'est-à-dire une suite d'événements, mais un monde narratif, ce qu'il appelle « story world », Tolosch parle de « narrative world », ici c'est « story world », donc le story world, le monde narratif, est bien plus compatible avec l'immersion du lecteur dans l'histoire des structuralistes que l'histoire des structuralistes. L'histoire, story world, il y a une possibilité d'immersion du lecteur dans ce monde. L'histoire, cette possibilité d'immersion est plus limitée. Alors, le story world, selon David Herman, c'est un monde narratif cognitif, est une représentation mentale, globale, à partir de laquelle il est possible de faire des inférences permettant de reconstruire de façon explicite ou implicite des incidents, etc., qui sont compris dans le récit. Contrairement aux structuralistes, les cognitivistes considèrent qu'il existe entre les catégories grammaticales et les concepts, un décalage. Par conséquent, les grammaires narratives ne sont pas tout à fait acceptées par les cognitivistes. Les grammaires narratives sont inadaptées à la description des unités narratives. Par conséquent, l'outil conceptuel nécessaire à l'analyse des séquences narratives est emprunté à l'intelligence artificielle, et notamment aux recherches de Schenck et Abelson, indiquées dans la bibliographie, sur la structure du savoir fondée sur les schemes, frames en anglais, et les scripts. Deux notions clés, d'ailleurs, dans les sciences cognitives. Alors, les schèmes sont des structures de savoir qui fixent l'essence des concepts ou des situations stéréotypiques. Les scripts, par contre, sont des séquences d'événements stéréotypiques qui guident les actions individuelles. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on va au restaurant? Tout le monde a ce script enregistré cognitivement. Alors, ensemble, les schèmes qui sont statiques, et les scripts, qui sont dynamiques, représentent des répertoires d'expériences déjà préfigurés, d'ailleurs, dans les travaux de Claude Bremaud et de Roland Barthes, qui permettent l'intégration d'informations locales à des cadres conceptuels plus larges selon un système de règles de préférence. Pas binaire, mais de préférence, donc pour beaucoup plus graduel. Alors, grâce à ce système de règles de préférence, un phénomène, lorsqu'il est projeté contre l'arrière-fond des schèmes et des scripts, sera perçu comme standard, stéréotypique, nouveau, insolite, indéterminé ou ambigu. En gros, Herman cherche à fonder sa théorie cognitive de récit sur l'interface entre le script et l'histoire. Je n'ai pas assez de temps pour développer les trois autres aspects de cette théorie, les facteurs qui nous permettent de qualifier un script comme récit, les qualités d'une histoire qui suscite les qualités pragmatiques d'une histoire qui suscite l'intérêt de l'auditeur, la tellability, et la narrativité. Bon, je laisserai cette tâche à Gerald Prince, qui fera une conférence le 28 novembre prochain sur la narrativité. Je pense qu'il va parler un peu de David Herman. Voilà, je passe maintenant aux deuxième approches cognitives de la théorie narrative, la narratologie naturelle de Monica Flodeneck. Le terme « naturel » a trois sources chez Flodeneck. C'est la recherche de Labov et de Valetsky sur les récits naturels dans la vie quotidienne. Deuxième source, c'est la branche de linguistique cognitive connue une branche de la linguistique cognitive connue sous le terme de linguistique naturelle. Et troisièmement, la notion de naturalisation proposée par Jonathan Coller pour désigner le besoin de l'acteur de rendre un texte intelligible en imposant à l'inconnu le connu. Alors, refusant de voir dans la connexité logique, chronologique de l'intrigue ou du mythos aristotélicien, le critère essentiel de la narrativité, Flodeneck introduit de manière controversée, très controversée même, la notion de experientiality, c'est-à-dire valeur expérientielle, en allemand c'est Erfahrungshaftigkeit, donc valeur expérientielle. Alors, pour elle, la narrativité se fonde plutôt sur cette valeur expérientielle que sur l'enchaînement des événements dans l'intrigue ou dans l'histoire. C'est très disputé, rejeté, critiqué, mais elle fait, comme l'expérience les processus cognitifs sont incarnés plutôt qu'abstraits, ce ne sont pas des... ce n'est pas cartésien, c'est plutôt pragmatique et phénoménologique. Okay? Alors, pour elle, cette valeur expérientielle, c'est ça qui fonde la narrativité. D'accord. Très discuté, mais elle a fini par marquer le paysage narratologique avec cette notion. Hein. Elle viendra peut-être un jour nous parler de ça. Bon. Alors, deuxième étape dans ce système, c'est le processus de médiation narrative, passe par trois schèmes macro-textuels, eux aussi de nature cognitive. D'abord, le schème de narrer, ressentir, to experience, les deux modes de médiation chez Stanzel, mais aussi les schèmes macrotextuels de agir, observer et réfléchir. Alors, une troisième étape dans la transmission narrative est le conditionnement générique des récits. C'est la narrativisation qui assure la mise en œuvre de ces trois autres niveaux. Et c'est cette narrativisation qui assure la narrativité de l'ensemble du texte narratif. Alors, la narratologie naturelle, et en particulier la notion de valeur expérientielle, ont suscité beaucoup de débats, laissant quand même des traces importantes sur la recherche narrative aujourd'hui. Alors, et je trouve que chez Flodeneck, plus que dans les travaux de David Herman, Flodenek cherche à reconceptualiser dans un cadre cognitif les catégories établies de la théorie narrative littéraire. Alors, enfin, quelques mots à propos d'un livre récent de Alan Palmer intitulé Fictional Minds et qui fait des échos assez intéressants par rapport au livre de Pavel, Fictional Worlds. En reprenant la notion de valeur expérientielle chez Flodenek, qui introduit au cœur de la narrativité la subjectivité et la conscience de la valeur expérientielle, c'est la base pour Flodenek, c'est la base de la narrativité. Alors, Palmer adopte ça, cette conscience et la subjectivité, et il ajoute à cette valeur expérientielle la notion de fictional minds, esprit fictionnel. Alors, Palmer fait remarquer que dans les récits de fiction, les croyances, les intentions, les buts, les prédispositions, etc., des personnages, ne sont pas confinés à la seule conscience des personnages, mais qui sont souvent traduits par des actes et par le déroulement de l'histoire. Bref, que la vie mentale des personnages possède un côté externe, voire public, voire social. Alors, à partir de ce constat, Palmer formule une critique des différents modèles de catégories de discours des personnages élaborés par la théorie narrative. La plupart de ces typologies laissent entendre que les discours mentaux sont privés, coupés du monde extérieur et de toute interaction avec les autres personnages. Alors, s'appuyant sur les recherches cognitives, Palmer postule la notion de schéma de conscience continue. Schéma de conscience continue. Alors, tout comme les scripts et les inférences qui permettent au lecteur de configurer des mondes fictionnels, ce qui se passe dans le monde actuel, créé par le texte. Alors, et ces mondes les mondes fictionnels sont forcément toujours incomplets. On ne sait pas combien d'enfants a Lady Macbeth. Elle a des enfants, on ne sait pas combien. Alors une connaissance des pensées des différents personnages de Madame Bovary, par exemple, permet au lecteur de formuler des hypothèses concernant les esprits fictionnels émergents de ce roman. Donc, il y a, c'est-à-dire, l'action du roman se déroule, non seulement dans le monde, mais aussi dans la tête des personnages. Et c'est ça que Palmer veut, cette idée qu'il veut soutenir. Il a gagné récemment un prix pour son livre. Alors, donc, le schéma de conscience continue ouvre la possibilité d'explorer les relations entre pensée et action, la pensée partagée au sein d'un groupe de personnages et les représentations mentales faites par un personnage des pensées des autres personnes. Alors, pour conclure, quelques minutes de retard, mais bon, je vais conclure rapidement. Il me semble qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'affirmer que le contenu narratif consiste en le seul enchaînement des événements qui forment l'histoire racontée par le récit. À la place de l'histoire comme contenu narratif, l'histoire existe toujours, mais à la place de l'histoire comme contenu narratif, il semble, compte tenu de ces évolutions récentes, qu'il faut postuler pour une narratologie thématique un monde narratif, soit un monde narratif Narrative World à la Dolezal, par exemple, qui est une structure extensionnelle du récit, soit, suivant la narratologie cognitive, une représentation mentale globale qui permet la reconstruction du monde projeté par le récit.